nous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Arrivé à Grenoble, je sonnais chez lui. C'est lui qui m'a ouvert. Salut.
Et le signal convenu. Je l'ai fait.
Et m'a fait rentrer. Il allait au salon. Il était habillé d'un pyjama. Il m'a fait asseoir. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Laure est absente. Elle est allée se faire coiffer. Je vais faire le lit. Tu viens? Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Nous avons fait le lit. Puis il m'a dit, je vais nettoyer la salle de bain. Nous sommes allés dans la salle de bain. Nous avons rangé quelques jetets, tenait un coup à la glace au-dessus du lavabo. Pendant que je donnais un coup à la glace, j'entendais derrière moi qui se déshabillait. Je me retournais et il était déjà nu, entré dans la baignoire. Je lui dis, sans oser vraiment le regarder, de peur qu'il voie mon trouble. Bon, eh ben, je vais te laisser. Non, reste. Tu vas me laver les cheveux. J'étais surpris. J'avais le corps qui battait très fort, gêné. Il me dit, prends le savon. Je le pris. Il se mouilla les cheveux. Je sentais son corps nu près du mien. Je voyais son sexe, un grand sexe qui bandait. Je me penchais et me dis, savonne-moi. Je lui savonnais les cheveux tout doucement. J'avais peur de lui faire mal. Et c'était la première fois que je le faisais pour un autre. Je sentais la douceur de ses cheveux qui avaient très courts. Ça me faisait un effet bizarre. Je ne bandais pas, j'étais trop ému. J'avais chaud et le sang semblait s'être arrêté. Après lui avoir bien savonné les cheveux, il se releva tout ruisselant et beau. Il me dit, savonne-moi de partout. J'avais de plus en plus chaud. Je me mis à lui savonner le torse, les bras, ces bras que j'avais tant désirés. Je descendais jusqu'au ventre, un ventre ferme et doux. Je voyais son bas-ventre avec une épaisse touffe de poils noirs. Je savonnais les jambes, oh, ses cuisses. Il me dit, il faut nettoyer ça aussi. Il me montrait son sexe. Je savonnais les poils. J'avais très chaud. C'était bon. Je savonnais la verge. Il me prit la main et me dit, comme ça. Il me fit faire le mouvement. Elle devenait immense et raide. Il soufflait un peu. Puis il me dit, je vais me rincer. Se rinça, j'étais bizarre. Je venais de toucher ce que je désirais le plus au monde. Je ne savais plus où j'en étais. Il me dit, déshabille-toi, à toi de te laver. Je me déshabillais. J'avais un peu honte car c'était la première fois que je me montrais nu. Sorti de la baignoire, j'y entrais. Il me dit, attends, je vais te laver. J'étais gêné, mais je me laissais faire. J'étais tellement ému que son contact ne me fit rien. Même lorsqu'il me touchait le sexe, je ne bandais pas. C'est pas normal que tu ne bandes pas. J'étais honteux. Tu as déjà couché une fille? J'étais rouge, il me dit. Non, jamais. Puis, je suis sorti de la baignoire. Nous sommes rhabillés et avons nettoyé la salle de bain. cette chose merveilleuse s'était terminée en honte pour moi. Le temps à la vie revenait à nous. C'était normal que la gêne et le mal de vivre reviennent. Puis, nous sommes retournés au salon. Là, il me dit, surtout ne dis rien alors. Je fis vous de la tête et nous n'avons plus parlé de cela. L'heure est venue. Bonjour. Puis, nous sommes passés à table. Je parlais peu, mais eux parlaient beaucoup entre eux et avec une certaine intimité. Je me sentais gêné et exclu. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et en même temps, je la trouvais impolie de m'isoler. Puis, elle est partie. Ouf! Elle avait un travail à faire. J'allais avoir Charles à moi tout seul. Je me demandais ce qui allait se passer, surtout après ce matin. Mais n'y pensais pas trop et me laissais aller. J'avais eu une telle surprise. Nous sommes allés au salon. Et nous nous sommes assis sur un divan, l'un à côté de l'autre. Il a souri, moi aussi, me tapa sur les cuisses et me disant « Sacré Pierre, va !» Puis, comme cela, il a sorti son sexe et s'ébranlait. Je le regardais. J'étais tellement excité que je ne bandais pas, comme le matin. Il me prit la main et me dit « Fais comme cela. » C'est ce que je fis. Malheureusement, l'émotion ne me faisait rien ressentir. Lui suait, gémissait. Son sexe était raide et rouge. Puis, il a joui. S'est relevé en vitesse pour aller dans la salle de bain. Je l'ai suivi. Où il s'est nettoyé au lavabo. S'est essuyé avec une serviette et changé, il me dit « Faut faire ça souvent. Il faut évacuer tout ça. » Puis, nous sommes retournés au salon. J'avais la tête qui tournait et tremblait un peu. Puis, je l'ai aidé à classer des papiers et à 17h, il m'a ramené à la gare. Avant de sortir du fiacre, je lui dis « Merci ». Il me dit avec un air triste et hagard, bizarre « Cela te fera un beau souvenir ». Et je l'ai quitté. Dans le train qui me ramenait à Lyon, j'étais heureux. Mais, pas remis de mes émotions, j'étais comme dans un brouillard. Je suis resté assis plusieurs jours, n'arrivais pas à sortir de mon rêve. Puis, je me demandais pourquoi elle avait agi comme cela, mais ne comprenais pas. À mon avis, Charles était jeune, plein de fougue, et s'aimait et aimait être aimé. Il avait dû comprendre que je l'aimais, et cela lui faisait plaisir d'être aimé. Alors, comme il était fier de son corps et de sa force sexuelle, il a voulu me les montrer pour me faire plaisir et se faire plaisir. Mais ses sentiments n'avaient rien à voir là-dedans. Pour lui, c'était une chose toute simple et sans conséquence de faire cela. Il était encore jeune et ses pulsions sexuelles devaient être fortes et se sentait beau et aimait son corps. Bien entendu, à cette époque, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas tout ça. Et Charles restait pour moi un mystère auquel je ne cherchais pas trop à trouver. Je l'aimais et voulais encore et toujours le toucher. Souvent, jour et nuit, je voyais ce que nous avions fait ensemble. Et là, en dehors de la surprise, je ressentais ce que je n'avais pas ressenti. Voyais plus que ce que je n'avais vu et semblait toucher et sentir plus que je ne l'avais fait en réalité. Je refaisais tous les gestes et là, ils devenaient vrais, tandis que lorsque je les faisais en réalité, ils étaient faits comme dans un rêve, comme si je traversais du vent au lieu de toucher de la chair. J'étais fou de désir et me masturbais en pensant à lui. Je voulais absolument recommencer cela, car je me disais que cette fois, je ressentirais vraiment la chose. J'avais envie de toucher Charles sur son lit, nu, et de me plaquer contre lui. Je voulais sentir sa peau contre la mienne. Je me disais que nous faisons toujours l'amour chaque fois que je viendrai chez lui. Le temps passait. J'attendais une lettre. J'étais inquiet, me demandais comment il allait se comporter après cela. Pas de lettre. Ma fougue, mon impatience me firent écrire. J'écrivis avec fougue et même en dis peut-être un peu trop. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai écrit. Mais mes sous-entendus ont dû être trop voyants. Avant de poster la lettre, quelque chose me disait de ne pas le faire, mais mon impatience de le revoir me fit la poster. Quelque temps après, je fis un rêve. Qui me fit une drôle d'impression. Charles était nu. Il y avait l'or qui lui disait « Qu'est-ce que ça? Je ne veux plus de ça. » En le regardant et me regardant, Charles la prenait dans ses bras et lui disait « Je te promets, je te jure que c'est fini, fini, fini. » J'avais un cafard énorme. En me réveillant, j'eus peur et pensai à la lettre. J'attendais avec anxiété la réponse. Au bout d'un moment, comme j'en avais pas, j'avais peur. Et je réécrivis et je donnais la date où je viendrai. Je n'eus pas de réponse. Paniqué, peur de le perdre à cause de mon rêve, je décidai de partir tout de même. J'arrivais anxieux et inquiet et sonnai à la porte. Pas de réponse. Attendais. Sonnai encore une fois. Regardais. Les fenêtres, les volets étaient ouverts. Sonnait encore une fois. Rien. Appelait. Charles, Charles. J'étais anxieux. J'avais peur. Et en même temps, fou, fou. Moi, si timide. J'hurlais. Charles, Charles. Sonnait, sonnait. Je faisais le tour du pâté de maison et allais vers l'arrière de la maison qui était un jardin. Les fenêtres étaient fermées. Je me mis à crier. Je ne savais plus où j'en étais, ce que je faisais. Charles, Charles. Plus le temps passait, plus je devenais fou et furieux. J'étais en colère contre eux qui ne voulaient pas m'ouvrir, me recevoir, moi, qui avais tant fait pour eux. Je restais une bonne partie de la matinée à regarder la maison et à crier de temps en temps. J'avais la tête vide, je ne savais plus ce que je faisais. Et puis, j'ai vu avec anxiété et peur la porte de la maison s'ouvrir. Charles apparaître, prendre le sentier du jardin pour aller vers moi. Il est entré dans une cabane et a ouvert une porte pour me faire rentrer. Une fois la porte refermée, il m'a dit « Il faut arrêter tes folies et foutre le camp d'ici. On ne veut plus te revoir, tu m'entends? On en a assez de toi et de tes excentricités. Que vont penser les voisins ?» J'avais la gorge serrée et envie de pleurer. Je comprenais que par ma faute, j'avais perdu à jamais Charles. Je lui ai dit « Tu as reçu ma lettre ?» Il me dit « Je n'ai rien à foutre de ta lettre. Tu as fait un bougachi. » Je ne veux plus te revoir. Tu entends? Je ne veux plus te revoir. Non. Je ne veux pas, Charles. Tu me fais chier. Tu m'emmerdes. Fiche-moi la paix. Je baissais la tête. J'avais envie de mourir. Je tremblais. Il me dit, allez, va-t'en. Je savais que c'était fini. Je lui dis, non, attends. Quoi? Un peu. Je le regardais bien. Et pendant une seconde, j'ai vu entre ses jambes. J'ai eu un désir. Il me suis mis à bander. Il a compris que je le désirais. Malgré lui, il s'est adouci à cause de cela. Il m'a dit tout doucement, « Allez, maintenant, il te faut partir, Pierre. » Je lui dis les larmes aux yeux, « Nous ne nous reverrons plus ?»« Non. » »« Nous serons plus amis ?»« Si. » »« Mais nous garderons notre amitié dans notre corps, rien que dans notre corps. » Sans nous voir, allez, il te faut partir, il te faut partir. Et il a ouvert la porte. J'étais effondré, mais incapable de lutter après ce qu'il venait de me dire. Amis pour toujours, dans nos corps, pour toujours. Allez, sortons. Nous sommes sortis. Je lui ai dit, nous ne reverrons plus. Non, il ne faut plus revenir. Nous avons fait le tour de la maison. Et devant la porte de sa maison, il m'a tendu la main. Je lui ai serré. J'avais les larmes aux yeux. Il me dit, ami, dans mon cœur. Et c'est tout. Il est rentré. J'ai pris le chemin de la gare, effondré, vidé. dans le train, j'étais malade. J'arrivais pas à reprendre mes esprits. De retour à Lyon, je l'ai retrouvé comme je l'avais quitté. Arrivé chez moi, j'allais me coucher et voulais voir personne. Je me disais que j'étais fini, bien fini. J'avais décidé de mourir. Les jours étaient vides, j'étais vide. Je voulais mourir. Le temps passait, puis, petit à petit, en repensant à cela, je me mis à haïr Charles et Laure de m'avoir humilié. J'ai trouvé pas si bien que cela. Je leur voulais du mal. Imaginez des vengeances où ils avaient besoin de mon aide. J'étais en pleine folie. Puis, les choses se sont tassées. La mort est revenue, mais je voulais mourir à mon heure. Cela me faisait du bien de penser à la mort et de me dire que puisque je voulais mourir, plus rien n'avait d'importance. Je planais, j'étais au-dessus de tout. Le monde n'avait plus prise sur moi, j'étais en dehors de tout. Ce qu'il y avait de bizarre, c'est que personne ne se rendait compte de mon état. Ma famille s'était habituée à ce que je ne parlât pas et restait enfermée dans ma chambre. À la banque, l'on pensait que j'étais une personne qui ne s'intéressait pas aux autres et qu'il fallait laisser tranquille dans un coin. Le temps passait ainsi. Et puis, la nuit, les désirs et les images me revenaient. Je redésirais Charles. Je voulais le revoir. Durant notre dernier entretien, à un moment, je m'étais rendu compte, moi aussi, de son trouble. Je me disais que s'il avait été seul, il m'aurait reçu et nous aurions recommencé. Quelques secondes, en même temps que le mien, son corps me l'avait dit. Je pensais souvent à cela et le revoyais troublé, Cela me donnait des désirs, des envies. Je n'en dormais plus. Alors un jour, je me suis dit, si je lui envoyais une lettre pour lui dire que je viens et que sa femme ne la voit pas, il pourrait l'envoyer à une course et l'on pourrait se voir, ou il pourrait me donner rendez-vous ailleurs. J'étais sûr que ça allait marcher. Alors j'ai écrit. Attendu. La date de ma visite est arrivée et je n'avais pas de réponse. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille pour lui montrer que lorsque je dis que je viens, je viens. On ne sait jamais, il n'avait peut-être pas pu écrire, mais il m'attendait tout de même. Alors, je suis parti le matin. Il neigeait à gros flocons, le train roulait doucement. À un moment, il s'est arrêté en pleine campagne. Je demandais pourquoi. L'on me dit, c'est trop gelé, il faut attendre. Nous avons attendu. J'étais pas pressé d'arriver. J'avais la tête vide. Le train est reparti.
Un dessin par jour. Bah, je te disais ça pour te faire marronner. Il est très bien ton dessin. Je me souviens plus de ces grangiers.
Nous sommes arrivés à Grenoble, un Grenoble sous la neige. Il neigeait à très gros flocons, la ville était noire et blanche. Je pris un flac et arrivai devant la maison. J'ai sonné. Pas de réponse. Il continuait à tomber de la neige. Le sol en avait une grosse épaisseur. La neige restait sous mes vêtements. Je sonnais encore.
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
Rien. Levais la tête, les volets étaient fermés. Fire le tour de la maison. Le jardin était tout blanc, d'une épaisse couche. Là aussi, les volets étaient fermés. C'était difficile à marcher sur cette neige. Il y en avait trop. J'avais mes chaussures de ville. Je restais une minute devant la maison et son jardin. Puis, me dit que je devais partir. Je décidai de faire le chemin du retour à pied. Je marchais difficilement, continuais à tomber, et il fallait faire attention. J'ai failli glisser plus d'une fois. Je me disais que c'était la dernière fois que j'allais à Grenoble, que c'était fini. Mais j'en étais soulagé et heureux de rentrer chez moi. Oui, soulagé et heureux de rentrer chez moi. Après des difficultés de marche, les vêtements tout blancs d'une neige gelée, j'arrivais à la gare et prenais le premier train pour Lyon.
aujourd'hui, tu t'es pas foulé.
Soulagé et calme.
Je voudrais t'y voir.
Sans tristesse ni remords. C'était fini. La page était tournée. Dans le train, je me disais que Grenoble était une ville infecte. Je me demandais pourquoi j'y avais été. Que tout ça était ridicule. Ridicule. J'arrivais à Lyon où il y avait moins de neige. J'étais heureux de retrouver ma ville. Oui, c'était ma ville et je l'aimais. Elle au moins ne m'avait jamais vu humilié comme à Grenoble ou Paris. J'avais l'impression que ces deux villes m'avaient rejeté. À Lyon, je retrouvais les gens, les rues. J'étais heureux. Il faisait beaucoup plus doux. La neige s'était arrêtée. Je décidai de rentrer à pied. Cette marche, en plein février, me fit du bien. Je me rendis compte avec satisfaction que les jours avaient rallongé. Je voulais oublier Grenoble et ses humiliations. Arrivé chez moi, mes parents étaient absents. Je me fis préparer un repas bien chaud que je mangeais de bon appétit. Puis, prenais une bonne douche. Et me couchais. Ouf, c'était fini. J'étais devenu moi-même. Je me disais que si je voulais des jeunes gens, il y en avait plein à Lyon. Voilà une histoire finie. Mais est-ce qu'une histoire d'amour se termine vraiment? Peut-on définitivement l'oublier? Je le croyais, car je voulais sortir de ma folie. Mais pendant quelque temps, j'eus un grand vide. Puis, parce que le vide demande toujours à se remplir, je me posais des questions sur ma vie, sur ce que j'allais devenir, sur ce que je devais en faire. Je faisais les 100 pas dans ma chambre à réfléchir. Il faut que je change de vie. Je veux qu'il m'arrive quelque chose de nouveau. Cela ne peut pas durer comme ça. J'avais beau chercher à ce que je pouvais faire pour changer ma vie. Je ne savais pas. Je veux faire quelque chose pour vivre autrement. Je veux être plus libre. Voir d'autres personnes. Faire partie d'un groupe. Voyons. Politique, religieux, faire quelque chose. Mon Dieu, aidez-moi. je m'énervais à chercher. Puis en réfléchissant bien, je me dis qu'il me fallait en premier plus d'indépendance. Et pour cela, il me fallait que je vive seul. Cette idée me plut, mais me fit peur. En serais-je capable? Il y a tellement de responsabilités. Apprendre en vivant seul. J'avais peur. Mais je m'imaginais vivant seul dans un petit appartement que j'aurais aménagé à ma façon. Je me voyais déjà avec mes affaires, tranquille, et recevant qui je voulais, sortant comme je voulais. J'ai jamais pu recevoir quelqu'un chez moi. Je me voyais passant des soirées entre amis et même couchant avec un garçon. Cela m'excita. Je décidai d'en parler à mes parents. Quelques jours après mon dernier voyage à Grenoble, je me demandais comment, d'un coup, j'avais décidé et était satisfait d'arrêter avec Charles. Car en y réfléchissant bien, je me disais que ça avait été dû au temps, à ce voyage fou fait dans des conditions aussi mauvaises qui m'avait démontré la stupidité de tout cela et qu'il valait mieux arrêter de suite que de faire ce que je faisais et surtout que ce n'était pas digne de moi. Quand, voulant à tout prix forcer Charles à me voir et à m'aimer aussi, il y avait quelque chose de buté, de méchant là-dedans. Donc, je voulais oublier tout ça. Et pour vraiment oublier, changer de vie. Être plus libre, adulte, pour pouvoir m'accepter tel que j'étais. Pour cela, il fallait que je quittasse mes parents. Car avec eux, j'aurais toujours été obligé de jouer la comédie. Bien sûr, j'avais un arrière-goût de peur, de crainte, de supporter seul les contraintes de la vie. Surtout moi, où mes parents ne m'avaient donné aucune responsabilité, par peur que j'en profite pour faire des bêtises conscientes ou non. Mais malgré tout, je travaillais et à mon travail, j'avais un peu de responsabilité, ce qui me montrait que j'étais capable d'en prendre. Puisque je voulais partir, il fallait que je prévienne mes parents, qu'ils me donnent de quoi débuter, car je leur donnais jusqu'à présent toute ma paye. Je n'avais que très peu d'argent à moi. Un soir au salon, alors que nous étions tous réunis près d'un bon feu de cheminée, je pris mon courage à deux mains et dis « J'aimerais pouvoir vivre seul. » Mon père me regarda, ma mère aussi. Ma mère me demanda «
C'est-à-dire ?»«
Prendre un petit appartement et vivre seul. » »«
Tu n'es pas bien avec nous ?»«
Oui, mère, mais je suis en âge où j'ai besoin de vivre de mes propres ailes. »
« Et que vas-tu faire tout seul ?»«
Je vivrai comme tout le monde. » Mon père dit à ma mère
« Laisse !»
Elle lui dit
« Il ne sait pas se débrouiller tout seul. »
Il lui dit
« Il apprendra. Tu veux te mettre chez toi ? Tu as bien raison. Fais-le. »
« Merci, père. » Mère me demanda
« Et où comptes-tu aller ?»«
J'aimerais louer un petit appartement dans le quartier. »
« Et c'est hors de prix !»
Vous m'aiderez pour le premier mois.
T'aider, tu en as de bonnes. Et pourquoi t'aiderais-je?
Depuis que je travaille, je vous donne toute ma paye.
Ce n'est que normal, après ce que tu nous as fait.
Que vous ai-je fait?
Ta fugue à Paris. Tu nous as coûté gros.
J'étais furieux. Me levais et faisais le 100 pas. C'est une histoire vieille de plusieurs années. Elle ne t'a pas coûté une fortune. Et puis tu ne sais pas, tu ne vas pas me reprocher éternellement cette vieille histoire. Quelle est l'adolescent qui n'a pas fait de bêtises? Moi j'en ai fait qu'une. Et au bout de 10 ans, tu m'en parles encore. Dans aucune famille, on ne reproche à un homme une bêtise qu'il a faite étant enfant. Je ne veux plus entendre parler de cela. Ma mère se leva et me dit
« C'est cela. Tu m'interdis de parler d'une faute que tu as faite. »
« Oui, ni rappel, ni reproche. Lorsque tu étais jeune, toi, tu n'as pas fait de faute ?»«
Non, jamais. » »«
Bien sûr, j'oubliais, tu es une sainte. Mais moi, nous sommes que des pauvres mortels. Mais nous sommes vivants. Nous ressentons les choses, le monde, la vie. Nous avons des désirs. Et c'est pour cela que nous faisons des fautes. Nous ne sommes pas de marbre.
Ne m'insulte pas. Je suis irréprochable.
Peut-être trop. Et c'est cela qui te rend inhumaine. Et t'empêche de comprendre et de pardonner les fautes. Comme Dieu, ton Dieu te l'ordonne. Tu veux savoir pourquoi je suis parti? C'est parce que je voulais avoir près de moi un être humain pour pouvoir être compris et aimé.
Tu veux dire que nous ne t'avons jamais aimé, père et moi?
Vous m'avez fait, mais par devoir, pour faire bien, pour ne pas fauter. Vous avez été digne, respectueux, mais sans sentiment. Lorsque je suis revenu, j'étais incapable de vous parler. Pourtant, j'aurais aimé vous demander pardon et dire que je vous aimais. Mais je vous ai trouvé de marbre. Vous n'avez pas fait un geste vers moi. Et tout fait pour me faire comprendre que j'étais un paria. Je n'ai pas pu parler. Et 10 ans après cette histoire, l'histoire d'un gosse qui a fait mal, vous me le reprochez toujours? Non, mère. Si vous aviez été un peu moins digne, grande, moins près de ce qu'il faut ne pas faire, vous auriez été une meilleure mère en étant moins parfaite.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Mémoire intime, dont c'était la 9e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.
CVRP, cinéma.